René Pujol, Au temps des brumes. Chapitre 9. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Au bout d'un temps inappréciable, Patureau chuchota. « Eh bien, monsieur Jacques, qu'est-ce que vous pensez de cela et qu'est-ce que nous allons pouvoir faire ?»«
Je n'ai jamais eu pareille impression d'impuissance. » répondit sur le même ton le jeune homme. Nous sommes pris et bien pris. Moi, je suis incapable de briser mes liens. Et toi?
Moi non plus, avoua le colosse avec rage sourde. J'ai essayé, je n'ai réussi qu'à me faire du mal. Ces coquins ont des cordes de première qualité.
Pourtant, vous n'allez pas leur faire cadeau de nous vivre.
Telle n'est pas mon intention. Mais, mon pauvre ami, il faudra bientôt adopter une solution. Le traitement qu'ils nous font subir ne saurait durer sans danger. Nous ne sommes pas seuls. Nos compagnons vont peut-être se jeter d'une minute à l'autre dans les mains de nos tortionnaires. Ceux-ci s'empareront alors de tout ce que nous refusons de leur livrer. Et nous n'aurons même pas le bénéfice d'un marché.
Vous pensez aux millions ?
Je pense que si nous cédions de bonne grâce, il serait peut-être moins dur.
Ne cédez pas, ne cédez pas, gronda l'Auvergnat avec l'entêtement de sa race.
Nous n'avons qu'à attendre. Quand ils auront suffisamment faim, ils seront peut-être moins exigeants. Ils se contenteront d'une partie de nos provisions.
Oui, murmura Jacques, mais quand ils auront faim, nous aurons soif depuis longtemps.
C'est bizarre, reprit Patureau. Notre place n'est pas particulièrement agréable. Et pourtant j'ai confiance. Je suis sûr que nous nous tirerons de là, sains et saufs.
Souhaitons-le, soupira Jacques. Malheureusement, je ne suis pas si optimiste que toi.
Le silence régna de nouveau. Total. Funèbre. Le blessé, rompu de fatigue, ne se plaignait plus. Bientôt, un souffle profond et régulier apprit à Jacques que Patureau venait de s'endormir. Il envia la sérénité d'âme de son camarade de captivité. Dans certaines circonstances pénibles, l'intelligence cesse d'être une supériorité. Mieux vaut être passif. C'est le meilleur moyen de ne pas user ses forces physiques et de ne pas brûler inutilement son énergie. Un bruit, presque imperceptible, tira Jacques de ses réflexions. C'était un tapotement extrêmement léger qui s'arrêtait, puis reprenait à intervalles irréguliers. Cela ressemblait au pas furtif et indécis d'un animal en train de quêter. C'est le chien, pensa tout de suite le jeune homme, avec une joie ineffable. Et dans l'ombre absolue, il appela tout doucement. « Goliath, mon petit Goliath !» Le tap-tap-tap devint plus net, et sa cadence se précipita. C'était bien, en effet, le chien de Madame Gorgette. Jacques l'eut bientôt contre lui, frétillant et essayant de son mieux d'exprimer son affection. La bête mendiait les caresses habituelles que Jacques ne pouvait lui donner à cause de ses mains attachées. Les timides plaintes de Goliath signifiaient « Pourquoi ne me grattes-tu pas les oreilles comme tu fais toujours ? Tu n'es donc pas content aujourd'hui que je sois à côté de toi ?» Jacques se demandait si le caniche l'avait retrouvé par hasard au cours de ses pérégrinations dans la carrière ou bien s'il avait été envoyé à sa recherche par Juliette. Dans tous les cas, il importait de profiter de ce moyen pour donner signe de vie aux habitants de la caverne. Comme Goliath frottait câlinement sa tête contre l'épaule de Jacques,
Ce dernier entendit le froissement caractéristique d'une feuille de papier. Goliath portait certainement à son collier un message de Juliette. Malgré qu'il ne pût lire ce message, Jacques éprouva un violent désir de s'en emparer. Mais comment parvenir à le prendre? Patiemment, le moins maladroitement possible, Jacques essaya de happer la feuille de papier avec ses dents. Il pouvait bouger la tête et même le torse. Mais le caniche, croyant à un jeu, se mit à sauter à droite et à gauche avec des halètements joyeux. Enfin, favorisé par le hasard, Jacques réussit à saisir entre ses lèvres un coin du papier qui se déchira. N'importe, il possédait désormais un morceau de la lettre. Il pourrait y jeter un coup d'œil quand l'électricité serait rallumée. Avec des précautions infinies, il disposa le précieux papier sur le sol et se traîna dessus pour le cacher. Il était temps, car la lumière du phare à acétylène brilla au bout d'une galerie. Les bourreaux rentraient de leur expédition. « Va-t'en, intima Jacques au chien. Va-t'en donc. » Mais le chien ne bougeait pas. Jacques distingua furtivement la silhouette de la petite bête. Plantée sur ses pattes, elle flairait l'air et se demandait sans doute qui étaient ces gens. « Va-t'en, reprit le jeune homme. Dumbo, obéissant à cet ordre ou à son instinct, le caniche fit demi-tour et s'enfuit au galop dans la direction de la caverne. Jacques fut grandement satisfait. Juliette pourrait constater qu'il avait reçu le message et, voyant qu'il n'avait pu y répondre, comprendrait que quelque chose d'insolite se passait et qu'il fallait être sur ses gardes. Il avait assez confiance en la sagacité de la jeune fille pour être certain que désormais, elle jouerait serré. Il distinguait maintenant deux ombres qui dansaient fantastiquement sur les parois. Puis, Dominique tourna le commutateur et Jacques, exagérant le clignement d'yeux auquel l'obligeait le brusque passage de l'obscurité à la lumière électrique, s'assura que le chien de Madame Gorgette n'était plus visible. Encore bredouille, avoua Gaston en se débarrassant du phare à acétylène. Cela n'a rien d'étonnant, continua Dominique. La faune et la flore de cette carrière ne peuvent guère nous réserver des surprises. Nous aurions pu trouver quelques chauves-souris, dit Gaston. C'est un assez piètre gibier, mais faute de grive. Pâtureau continuait à dormir comme un loir. Dominier le contempla d'un air pensif. Heureuse nature, soupira-t-il. Il aurait pourtant quelques bonnes raisons de s'inquiéter de son avenir. Et se tournant vers Jacques. Eh bien, monsieur, avez-vous réfléchi pendant notre absence?
Beaucoup, dit Jacques.
Ah ah! Et peut-on connaître votre conclusion?
« Ma conclusion, fit le jeune homme, c'est que vous êtes d'une cruauté indigne d'un Européen. »
Gaston eut un geste d'indifférence. « Conclusion purement spéculative, dit-il. Le moindre bout de pain ferait mieux mon affaire. »«
Faut-il les détacher ?» demanda Dominique.
« Non, répliqua nettement le docteur. Laisse-les s'engourdir. »
Sauvage, exhala Pâtureau en ouvrant les yeux.
Dominique éclata de rire.
Ah, vous ne dormez plus.
Vous irez au bagne, s'écria le colosse. Mais le docteur, d'un geste las, l'invita à un peu plus de calme.
Ne vous emballez pas de cette façon, dit-il. Ce n'est pas demain que vous trouverez des juges pour nous condamner.
« La société finira pourtant par se réorganiser, » fit Jacques.
« La société est aveugle.
Elle s'habituera au brouillard. Elle s'adaptera. Et vous aurez alors des comptes à rendre. »
Quand je vous explique que la société est aveugle, dit le docteur, vous me comprenez mal.
Je ne parle pas de la brume, je parle des yeux de mes contemporains.
Nous devenons tous aveugles, vous comme moi, et nous ne pouvons éviter ce malheur.
Croyez-moi, nous ferions mieux de profiter le plus confortablement possible de nos derniers jours, car ce sont bien nos derniers jours que nous vivons.
Jacques écoutait attentivement, mais il se garda d'interrompre son interlocuteur. Il redoutait un piège et se confinait dans l'attitude la plus méfiante.
« Vous ne me croyez pas, continua le docteur, en s'asseyant sur le sol et en bourrant une courte pipe anglaise. Au fond, cela m'est égal, mais comme nous n'avons rien à faire de notre temps, je préfère l'employer à causer. D'ailleurs, cela vous édifiera. Depuis que vous êtes entré dans ce souterrain, vous ignorez complètement ce qui se passe à l'extérieur. »
Cette déduction était fausse, mais Jacques n'avait aucune envie de faire mention du poste de TSF des Dames Fargeau.
Je l'ignore, mais je m'en doute un peu, se borna-t-il à répondre.
Il aurait pu se cantonner dans un silence méprisant, mais il préférait ne pas traiter l'antipathique Gaston en ennemi, quelque raison qu'il eût de le faire. Il avait le faible espoir de faire naître une cordialité dont il pourrait peut-être tirer profit.
« Je ne crois pas que vous vous en doutiez, » dit Gaston en soufflant une bouffée de fumée.
« Même si vous étiez dehors, vous l'ignoreriez sans doute. »
La nouvelle n'a pas été ébruitée dans le grand public pour éviter l'affolement.
Le gouvernement a une sollicitude aussi attendrissante que superflue.
« De quoi s'agit-il donc ?» demanda Jacques. « Avez-vous une idée de l'importance de l'ionisation de l'atmosphère ?»«
J'ai souvent entendu prononcer le mot, mais je confesse mon ignorance. »«
Eh bien, commençons par le commencement. »
Le docteur était intelligent, et l'exposé dans lequel il se lança ne tarda pas à passionner Jacques, puis à l'inquiéter. Puis à le terrifier. La théorie scientifique des ondes et des radiations est loin d'être définitive. Toutefois, on a établi expérimentalement l'existence de ce qu'on nomme les ultra-radiations. L'échelle de la longueur d'onde des radiations est vaste. Les ondes les plus courtes sont celles du rayon gamma, émis par les corps radioactifs. Ce rayon mesure 0,2 unités angstrom, étant entendu qu'un angstrom est un 10 millionième de millimètre. À l'autre extrémité de l'échelle se trouvent les ondes électromagnétiques utilisées en TSF. Celles-là peuvent mesurer des dizaines de kilomètres. Mais en deçà des minuscules rayons gamma, existent encore des radiations beaucoup plus courtes.
Comme l'explique l'éminent Alphonse Berger, dit le docteur à Jacques, l'existence de ces ultra-radiations fut soupçonnée depuis plus de 30 ans par plusieurs savants, dont Edison, Curie, Rutherford, Crookes. Mais ce fut un physicien français qui mit cette découverte au point. En 1907, Albert Nodon, se livrant à des expériences dans les Pyrénées, au sommet du pic du Midi à 2900 mètres, reconnut à l'aide d'un électromètre extrasensible que l'action ionisante des radiations provenant des substances cosmiques se manifestait à travers les corps et variait sans cesse. Les couches supérieures de l'atmosphère, fortement ionisées, arrêtent en grande partie les ondes électromagnétiques et, ce qui a infiniment plus d'intérêt pour nous, les radiations ultraviolettes,
grâce à l'action absorbante de l'ozone. C'est à la limite de l'atmosphère terrestre que disparaissent ainsi les rayons X et rayons gamma décochés par le Soleil, et qui ne sont en réalité que des rayons super-ultraviolets. Nous ne connaissons pas de façon exacte la cause de cette absorption, mais elle est providentielle pour l'humanité. Pourquoi ? Interrogea Jacques un peu perdu. Si ces radiations arrivaient jusqu'à nous, leur action destructrice est si terrible que toute existence animale ou végétale cesserait rapidement à la surface de la Terre. Les rayons ultraviolets nous tueraient comme ils tuent les microbes dans l'eau qu'on veut stériliser. Leur action est si pernicieuse qu'elle détermine la désintégration atomique. Le docteur médita un instant, puis reprit. Eh bien, monsieur, depuis que le brouillard enveloppe la Terre, il est probable que l'ionisation des hautes couches atmosphériques ne s'accomplit plus. Nous ignorons pourquoi, mais c'est un fait. Les ultra-radiations ne sont plus arrêtées efficacement. Elles ne tuent pas encore, mais elles rendent aveugles. Leur influence sur la rétine est inexorable, quoique non douloureuse. Alors, fit Jacques, après un nouveau silence. Alors, en ce moment même, comme à chaque instant, comme lorsque nous dormons, les ultraradiations détruisent sournoisement nos yeux en attendant de s'attaquer au reste de notre organisme. Dans ce laps de temps que je ne puis évaluer, nous serons tous frappés de cécité complète. Il n'est pas de certitude plus atroce que celle-là. C'est effroyable, dit Jacques, qui pensait non seulement à lui, mais à ses compagnons. Pourquoi la nature est-elle si cruelle? Elle n'est pas cruelle, elle est indifférente. Obéissante à des lois mystérieuses et fatales, elle détruit comme elle crée. Nous nous sommes réfugiés dans cette carrière pour profiter d'un reste de clarté. Mais, quoique favorisée, nous n'en avons plus pour longtemps à voir la lumière. Mais enfin, comment cela va-t-il se manifester ? Questionna Jacques. D'abord par des éblouissements, par des macules qui sembleront voltiger dans l'espace, par des fulgurances. Bref, par tout symptôme décrit par ceux qui ont perdu la vue dans les laboratoires. Et puis, ce seront les ténèbres définitives. Tu n'es pas réconfortant, ricana Domini, qui avait tout écouté d'un air sceptique. Gaston tapota son talon avec sa pipe pour la vider. Ma résolution est prise, bien prise. Dès que je serai aveugle, je me suiciderai. Mais nous n'en sommes pas encore à cette pénible conclusion. Et d'ici là, je voudrais manger à ma faim. Nous avons bien droit au succulent repas des condamnés à mort. Qu'en pensez-vous, monsieur ? Demanda Dominier à Jacques. Ce dernier répondit avec calme. Je suis prêt à vous céder quelques provisions, mais je ne consentirai jamais à vous les donner toutes. Le visage de Gaston se contracta, décelant soudain une véritable haine. « Nous saurons vous convaincre, » fit-il. Mais Domini lui posa la main sur l'épaule et, d'une voix basse, comme un souffle, « Ne bouge pas, un chien, là, derrière toi, il ne faut pas l'effrayer. Si nous pouvons l'attraper, nous le mangerons. » Jacques pâlit. Le chien, c'était Goliath qui revenait. Il l'aperçut débouchant au petit trot. L'animal s'arrêta en apercevant deux visages inconnus. Puis il fixa son regard sur Jacques, en agitant la queue en signe d'amitié.
Petit, petit, susurra le docteur de sa voix la plus engageante.
Goliath hésita, fit trois pas en avant.
Allez, couchez, vociféra soudain une voix de stentor.
C'était Paturo qui poussait ce cri furieux.
Goliath, dont le courage n'était pas la vertu principale, battit précipitamment retraite.
Poursuivons-le, dit Domini. Il s'élança sur les traces de l'animal.
Gaston le suivit. Après avoir lancé un violent coup de pied dans les côtes de Paturo, qui riait à perdre haleine de l'excellente farce qu'il venait de jouer à ses bourreaux.
Chapitre 10. Où il est question d'apparence et de réalité. Les habitants de la caverne savaient tous par expérience combien il fallait de temps pour aller chercher de l'eau à la source. Ils commencèrent donc à éprouver de l'inquiétude dès que le retard de Jacques et de Paturo fut indéniable. Madame Gorgette, son chat sur les genoux, poussait des soupirs à fendre l'âme, tandis que M. Tubaz se tenait en permanence derrière la porte pour écouter ce qui se passait dehors. Juliette, qui n'était pourtant pas la moins angoissée, s'efforçait à rassurer tout le monde, mais n'avait même pas l'illusion d'y parvenir. Ils explorent sans doute les galeries pour savoir où sont les turbulents inconnus, suggéra la douce Madame Fargeau.
Certainement non, répliqua la concierge. Le désir de M. Jacques était de revenir ici le plus vite possible. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui aurait dû aller à la corvée d'eau. Il aurait mieux valu sacrifier quelqu'un de moins utile, M. Tubaz, par exemple.
Merci, s'exclama le petit rentier, abominablement vexé. Sachez, madame, que je suis aussi utile que n'importe qui.
Il ne tient qu'à vous de le prouver, monsieur.
Comment cela, madame?
En allant à la recherche de nos amis, monsieur.
Je n'irai pas, madame.
Je m'en doutais, monsieur.
Je n'irai pas parce que la présence d'un homme vous est nécessaire.
Oh, un homme comme vous !
Juliette arrêta cette discussion qui dégénérait en querelle. Ce n'était pas le moment de se chicaner.
Monsieur Tubaz restera avec nous, dit-elle. Il ne faut pas continuer à nous disséminer. Songeons à une attaque possible, car malgré toutes nos précautions, la porte de notre réduit n'est pas difficile à découvrir. Le chien, qui s'ennuyait d'autant plus qu'il avait pris l'habitude de vagabonder dans les galeries, bâilla en s'étirant les pattes. Et ce fut alors que vint à la jeune fille l'idée d'élever Goliath au rang d'estafette. Ce projet ne séduisit guère Madame Gorgette, mais son affection pour Jacques fut la plus forte, et elle ne prononça pas un mot pour combattre le projet. On décida de fixer un message au collier du caniche, et la rédaction de ce billet fut simple. Juliette écrivit : Nous sommes toujours en sûreté. Dites-nous ce que vous voulez que nous fassions. Après avoir fait flairer à Goliath une pièce de vêtement appartenant à Jacques, on le lâcha dans la galerie obscure. L'animal s'éloigna tout de suite vers le fond de la carrière. Juliette, malgré sa ferme volonté de ne pas se laisser abattre, sentait une grande lassitude l'envahir. La lutte contre les hommes la déprimait encore plus que la lutte contre la nature. Les nouvelles de plus en plus rares, transmises par la TSF, étaient de plus en plus mauvaises. La France, pays du bon sens et de la mesure, gardait encore un semblant d'ordre, une vie publique relativement ordonnée.
mais la plupart des autres nations semblaient atteintes de folie. Il était impossible de grouper les événements, de les coordonner pour se faire une idée d'ensemble. Les dépêches arrivaient, au hasard, des quatre coins de l'Europe. Mais on pouvait conclure sans erreur qu'une guerre féroce était engagée entre les habitants des villes et les paysans. C'était la guerre des céréales et du bétail. Les citadins marquaient des avantages certains parce qu'ils étaient mieux groupés et qu'ils opéraient par troupes contre des isolés. Mais la lutte fratricide ne faisait que commencer et il était bien prématuré d'en escompter le dénouement. En France, les services publics ne fonctionnaient qu'à Paris et dans quelques agglomérations comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille. Les centrales électriques ne continuaient à marcher que parce qu'elles alimentaient les moteurs des distributrices d'eau potable, mais on annonçait la prochaine suppression des courants de lumière. Rares étaient les endroits où on avait encore un peu d'air transparent. Les télégrammes et les radiogrammes parvenaient encore normalement, mais la distribution des lettres était arrêtée. Un léger grattement au bas de la porte fit tressaillir le cœur maternel de Madame Gorgette. « Voilà mon chien !» s'exclama-t-elle. En effet, Goliath, dès que la porte fut entrebâillée, se faufila dans la caverne. Il était visiblement satisfait de lui-même et agitait vivement son moignon de queue. « La lettre n'est plus à son collier !» annonça Madame Fargeau. Mais il ne rapporte aucune réponse, ajouta tristement Juliette en caressant le caniche. Que faut-il conclure ? Demanda M. Tubaz. Sans doute que M. Jacques se trouve dans l'incapacité d'écrire. Il a pourtant son stylo, fit naïvement Madame Gorgette. Oui, mais il est probablement prisonnier, attaché peut-être. Mais on peut arriver jusqu'à lui, ajouta Madame Fargeau. Si Goliath était tombé entre les mains des gens que nous redoutons, il ne l'aurait pas relâché. Ou bien il l'aurait suivi jusqu'ici pour nous découvrir, dit Juliette. J'ai la quasi-certitude que Jacques est en possession de mon message. Goliath est peut-être parti trop précipitamment. Madame Gorgette décida héroïquement. Il faut le renvoyer. Avec un couteau, surenchérit M. Tubaz. Pourquoi un couteau ? Pour que Jacques puisse couper ses liens. S'il a les mains attachées, comment voulez-vous qu'il fasse pour se servir d'un couteau ? Dit la concierge. Essayons tout de même, fit Juliette. L'absence du chien fut beaucoup plus courte que la première fois et ils constatèrent qu'il rapportait le couteau fixé à son collier. « Il n'y a plus rien à faire, » décréta Tubaz, en barricadant soigneusement la porte. Jacques fut très heureux de voir Gaston et Dominique les mains vides. Il jugea politique de dissimuler sa joie. Mais Patureau s'esclaffa. « Toujours bredouille, tant mieux. » Le docteur, pâle de rage, porta la main à sa poche pour prendre son revolver. Mais Dominique l'apaisa. Pas encore, dit-il. Quand cet imbécile mourra, c'est que sa mort nous sera utile. Jusque-là, il nous suffit de l'oublier dans son coin. Sa jovialité ne tardera pas à diminuer. La diète est un calmant. Le docteur eut son mauvais sourire. Tu as raison. Chaque chose en son temps. Puis il s'occupa du blessé qui somnolait, plus calme qu'au début. Comment est-il ? Demanda Dominique. Aussi bien que possible, répondit Gaston. Dans 3 ou 4 jours, il sera sur pied. Et il aura faim, fit Dominique. Nous exercerons donc une légère pression sur ces messieurs pour qu'ils se décident à nous céder un peu de nourriture.
Il paraît, reprit froidement Gaston, que l'arrachage d'un ongle est assez douloureux.
Une voix l'interrompit.
Messieurs, j'ai bien l'honneur de vous saluer. N'ayez aucune inquiétude, je suis un ami.
Les yeux de Patureau s'écarquillèrent.
Tu bases, s'exclama-t-il.
C'était bien le vieux petit rentier qui arrivait à pas menus. Il maintenait sous son bras un paquet assez volumineux.
Monsieur Tubaz laissa tomber sur le déménageur un regard chargé d'un incommensurable dédain.
« Monsieur, dit-il, vous n'avez pas à m'adresser la parole puisque je ne vous parle pas. »
Il se tourna vers Dominique et Gaston, qui, l'ayant tout de suite jugé inoffensif, l'observait avec curiosité.
« Messieurs, continua-t-il, c'est à vous que je veux parler. »
« Mais vous connaissez ces deux hommes ?» fit Dominié.
Si je les connais, dit Monsieur Tubaz.
« Ah, je les connais.
Le gros se contente d'être un sot. Mais l'autre a des prétentions.
Depuis l'apparition du brouillard, il s'est institué dictateur et il a fallu plier sous son autorité. J'ai assez souffert de lui obéir car je suis un homme libre. Mais il était le plus fort, et il en abusait. Vous n'imaginez pas combien d'humiliations il m'a fait subir. En le faisant prisonnier, vous m'avez rendu ma liberté, et je vous remercie.
Vous êtes infâme, rugit Patureau.
Le petit rentier bomba le torse.
J'ai simplement de l'amour-propre.
Messieurs, je viens vous proposer une alliance. Et comme premier gage d'amitié, je vous apporte ceci.
Tout en parlant, il dépliait son paquet qui contenait un demi-jambon.
Du jambon, s'extasia le docteur.
Ah, monsieur, vous n'êtes pas notre allié, vous êtes notre providence.
Dominique, serre-toi et serre-moi.
Dominié coupa deux larges tranches qu'ils se mirent à dévorer à belles dents.
Patureau, qui avait faim, se taisait.
Quant à Jacques, il n'en croyait pas ses oreilles.
La trahison de M. Tubaz le laissait stupide.
Il connaissait le mauvais caractère du petit rentier, mais de là à supposer qu'il pactiserait avec des bandits, il y avait un abîme.
M. Tubaz continuait à parler.
Je ne sais si vous connaissiez mon existence.
Ma foi, non, dit le docteur la bouche pleine. On a oublié de nous en faire part.
Je me doutais de cette ignorance, reprit M. Tubaz. Vos prisonniers espéraient probablement que je risquerais ma vie pour tenter de les délivrer.
Je préfère m'unir à vous et lier mon sort au vôtre.
Soyez le bienvenu, dit Dominique.
Mais n'avez-vous pas d'autres vivres que ce jambon?
Oh si, répondit M. Tubaz, j'ai des tas de conserves.
Mangez d'abord, et je vous conduirai jusqu'à notre petit entrepôt.
Cette fois, Patureau se tordit sur le sol pour sauter sur M. Tubaz, mais son effort fut vain.
« Monsieur Tubaz, dit Jacques, vous payerez cela de votre vie, vous m'entendez ?»«
Je ne vous crains pas, riposta le petit rentier. »
Et avec une nuance d'inquiétude.
« Ils sont bien attachés, n'est-ce pas ?»«
Très bien, affirma Dominique en coupant un nouveau morceau de jambon.
Les mains et les pieds?
Oui, solidement.
Mais ils n'ont pas le corps ligoté?
Ce serait superflu.
Peut-être, mais si vous voulez mon opinion.
Tout à coup, l'électricité s'éteignit.
Tiens, une panne, fit Dominique.
Gaston, le phare est à ta gauche. Allume.
Dans l'obscurité, Jacques sentit qu'on le palpait fébrilement et qu'une lame tranchait ses liens en lui piquant assez douloureusement le poignet.
C'est Juliette qui a coupé les fils électriques, chuchota la voix de M. Tubaz.
Je vais détacher Paturo. Vite, fuyez, fuyez.
Chapitre 11. D'un brusque changement de situation.
Quand Jacques se fut remis sur ses pieds, il chancela et faillit tomber, tant il était engourdi. Ses chevilles lui faisaient mal et ses genoux fléchissaient. Il frictionna vigoureusement ses articulations, toute sa volonté tendue, car en ces moments, les secondes valaient des siècles. Il entendait Gaston chercher en maugréant le phare à acétylène et se rapprocher de lui. Il fallait fuir, fuir tout de suite, dans n'importe quelle direction, lorsque la lumière brillerait de nouveau, il serait trop tard. Jacques s'élança droit devant lui et sentit dès les premiers pas qu'il avait récupéré assez de force pour courir. Il heurta quelqu'un qui ne fléchit pas sous le choc. Le jeune homme se déroba, peu désireux de combattre, mais une main puissante le saisit et la voix de Paturo chuchota. « C'est moi, nous sommes tous les trois ensemble. Tout de même, hein, il est extraordinaire ce monsieur Tubaz. »
« Éloignons-nous, je vous supplie, » chuchota le petit rentier à bout de courage.
« Je ne demande pas mieux, » riposta le colosse. « Mais de quel côté faut-il aller ?»
Leurs ennemis les secoururent, sans le vouloir, en faisant briller à l'improviste la flamme d'un briquet. Jacques distingua à 3 mètres une arcade noire comme la gueule d'un four. Il y entraîna vivement ses 2 compagnons. Ils eurent la chance de trouver, près de l'orifice, une anfractuosité dans laquelle ils se tapirent.
Attention au coup de chien maintenant, murmura Paturo.
Ah, que j'aurais du plaisir à caresser les côtes du docteur.
Quel dommage que nous ne soyons pas armés, fit Jacques.
Monsieur Tubaz répondit. J'ai laissé le fusil à ces dames, mais j'ai emporté le revolver d'ordonnance.
Saurez-vous vous en servir ?
Non, non. D'ailleurs, je n'y tiens pas. Je vous le donne. »
Et il glissa le volumineux revolver dans la main du jeune homme.
« Moi, j'ai mes poings, » dit Paturo.
« Prenez mon couteau, » fit M. Tubaz.
« Ah, ça, je veux bien. Merci. Maintenant, nous sommes à peu près parés. »
Toutes ces phrases avaient été échangées en quelques secondes à voix toujours très basse. Un faisceau de lumière blanche jaillit. Le phare était enfin allumé.
« Où est le vieux bonhomme ?» demanda Dominique, surpris.
« Il a disparu ? Il est donc nyctalope ?»«
Et les prisonniers aussi ont disparu, » s'écria le docteur.
« C'est le vieux qui a coupé leurs cordes. Nous nous sommes laissés jouer comme des enfants. »«
Bah, ça valait bien une tranche de jambon, » apprécia l'autre. Il faut nous consoler comme ça.
Mais c'est trop bon marché, riposta le docteur.
Il ne faut pas les laisser organiser leur défense. Ils nous frustreraient de leurs provisions.
Eh bien, nous allons les poursuivre. Ils ne peuvent être bien loin.
Malédiction, reprit Gaston. Tu aurais dû me laisser tuer le gros. Cela ferait un de moins.
Quant au vieux gringalet, si jamais je lui remets le grappin dessus, « nous nous amuserons. »
M. Tubaz étouffa un soupir. Le vieux gringalet, c'était lui. Il n'avait aucune illusion sur le genre d'amusement auquel songeait le docteur.
« Écoute, » dit Dominique, « de quel côté s'enfuit-il ? »
Les 2 hommes essayèrent vainement d'entendre le bruit des pas des fugitifs.
mais rien ne troublait le silence de l'immense souterrain.
« Ils sont déjà loin, » fit Gaston.
« Ou tout près, » reprit Domigny. « Ils se cachent peut-être à moins de 20 mètres. »«
Alors, en chasse. Nous allons probablement les dénicher. Browning au point et en avant. »
Jacques se ramassa sur lui-même, prêt à toute éventualité. Plusieurs galeries rayonnaient. Restait à savoir dans laquelle les poursuivants allaient d'abord s'engager.
« Vers la sortie ?» proposa Gaston.
« Sûrement non, » répondit Domigny. « Ils ont dû penser que, pour commencer, nous les cherchions par là. Commençons plutôt par le côté opposé. »
Ils choisirent un boyau qui n'était pas celui où se cachait le trio. Et leurs phares braqués se mirent en marche sans aucune précaution.
« Ils sont au moins 4, » dit le docteur. Pendant que le vieux Gringalet nous débitait ses mensonges, un autre sabotait l'installation électrique.
« Ah, si Pierre était guéri !» Ce fut la dernière phrase que Jacques entendit. La lueur décrut. L'obscurité retomba. Mais un gémissement de douleur inquiéta soudain le jeune homme.
« Vous me faites mal, » balbutia M. Tubaz.
À quoi Patureau répondit avec un accent auvergnat exaspéré par l'émotion, « Je ne vous fais pas de mal, je vous embrasse, et vous le méritez 1000 fois. »«
Si vous m'embrassez ainsi 1000 fois, » fit le petit rentier, « je serai mort avant, mes os en ont craqué. Éloignons-nous au plus tôt de ces hommes dangereux et rejoignons ces dames qui nous attendent dans l'anxiété. »
Il nous suffira de suivre l'allée centrale, dit Jacques. Nous irions plus rapidement si nous avions une lumière, mais ils m'ont volé ma lampe électrique.
J'ai aussi emporté des bougies, répliqua M. Tubaz.
Décidément, il a pensé à tout, s'écria le colosse.
Et M. Tubaz fit les frais d'une nouvelle accolade affectueuse et pénible.
Votre reconnaissance ne me laissera pas vivant, geignait-il.
Éloignons-nous avant d'allumer, recommanda Jacques.
Ils ne craquèrent une allumette que 100 mètres plus loin.
Jacques regrettait maintenant de ne pas avoir impitoyablement tiré sur ses adversaires. Mais malgré les circonstances, et même par légitime représailles, il était incapable de tuer un homme de sang-froid sans y être absolument obligé. Et à plus forte raison, 2.
Il ne leur fallut pas longtemps pour regagner la caverne où Madame Fargeau, Juliette et Madame Gorgette les accueillirent avec une joie immense. Le chat condescendit même à frotter sa tête plate aux jambes de Jacques. Goliath frétillait, bondissait, se roulait comme un chien épileptique. Il fallut calmer le perroquet qui, gagné par la contagion, se mit à pousser des clameurs déchirantes et à battre des ailes. Jamais le joli visage de Juliette n'avait été si animé. Jamais ses yeux n'avaient brillé d'un si vif éclat. Et Jacques sentait son cœur se serrer. Si le docteur n'avait pas menti, la jeune fille allait devenir aveugle, comme lui-même, comme tous. Madame Gorgette jugeait bon de verser d'abondantes larmes. Elle prétendait que cela lui dégageait la poitrine sur laquelle elle avait les nerfs noués.
Monsieur Tubaz était rigide et gonflé comme un triomphateur romain sur son char. Il paraissait avoir grandi de 15 centimètres. Il aurait trouvé tout naturel qu'on lui brûlât de l'encens sous le nez, mais il n'y avait pas d'encens dans la caverne.
« C'est M. Tubaz qui a imaginé tout le plan, » dit Madame Fargeau. « C'était d'une imprudence folle, mais nous n'avons pas trouvé autre chose. Il a risqué sa vie avec beaucoup d'abnégation.
Vous pouvez dire de crânerie, surenchérit Madame Gorgette.
Comme vous avez dû avoir peur, dit Pâtureau.
Du tout, affirma le petit rentier, qui avait failli mourir de terreur. La peur est un sentiment que j'ignore.
Moi, je regrettais notre jambon, avoua la pratique Madame Gorgette. Il me semblait qu'on le gaspillait en pure perte. Mais je fais amende honorable. Monsieur Tubaz est un héros.
Oh, je vous en prie, murmura le héros avec une pudique modestie.
Oui, vous en êtes un, insista la concierge propriétaire.
Vous avez droit à notre reconnaissance éternelle.
Pour vous prouver ma gratitude, regardez ce que je fais.
Et, lentement, solennellement, Madame Gorgette déchira en quatre morceaux la quittance de loyer de son locataire.